Bonsoir, le cri du Kélik.
Par contre, c'est bien parce que je peux l'éteindre ou l'allumer ici.
Mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un
bonsoir, le cri du Kélik, une émission préparée, réalisée et animée par Outland Nature. Le thème, vous l'avez compris avec la chanson de l'ami Georges, l'arbre, les arbres en Flandre.
J'ai les pipes d'écume ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois.
Le cri du Kévit, animé ce soir par Outland Nature et les invités d'honneur, je dirais Thierry. Bonsoir Thierry.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Bart.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir tout le monde.
Et bonsoir l'ami Lydie à la technique.
Bonsoir.
Donc vous avez vécu comme nous toute une semaine sur le Festival de l'Arbre, avec des conférences, des présentations, des promenades. Et pour, disons, clore un peu le sujet, nous avons décidé à Outland Nature de vous présenter les arbres en Flandre.
Pour prolonger le sujet.
Pour prolonger le sujet.
La fête de l'arbre ne fait que commencer, à partir de la Sainte-Catherine jusqu'à fin mars.
Oui, oui. À partir de Sainte-Catherine, oui. Ouais. Moi, j'avais compris qu'à Sainte-Catherine, tout arbre planté prenait racine.
Ouais.
Oui, bon, c'est ça.
C'est le début de la saison.
Ça, c'est le début pour la plantation. Alors, avant d'arriver à ce phénomène de plantation, on commence par la BCDA. Ah, qu'est-ce qu'un arbre?
Alors, il y a plusieurs critères pour définir un arbre. On pourrait commencer par dire que c'est un végétal de grande taille, mais ça ne suffit pas pour expliquer ce que c'est, parce qu'il y a des végétaux de très grande taille qui flottent ou qui se répandent sur le sol, des plantes qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de molles, donc ça suffit pas. Donc il faut un végétal de grande taille, mais qui soit constitué de ramifications en bois, donc rigides, qui se tiennent debout, généralement avec un seul tronc, parfois plusieurs, et...
Donc ce qui distingue un arbre, c'est la présence d'un tronc.
D'un tronc, généralement. Alors, de grande taille, droit, enfin droit ou pas droit d'ailleurs, mais qui soit rigide, en bois, et donc composé généralement d'un ou plusieurs troncs, bien ancré dans le sol, et couvert de feuilles, ou enfin au moins dans une partie de l'année.
Ça fait un peu bizarre de dire un arbre en bois.
Oui, il faut qu'il soit... Enfin, presque tous les arbres ont du bois, parce qu'après on verra qu'il y a plusieurs catégories. On les détaillera un petit peu.
Après j'ai lu aussi que pour qu'on puisse donner la définition d'arbre, il faut que l'arbre fasse, enfin que le sujet fasse plus de 7 mètres à la taille adulte.
Alors c'est pourquoi on dit qu'ils sont de grande taille, parce que voilà. Il y a des végétaux aussi qui sont constitués de bois, mais qui restent plus petits, ou bien qui sont très ramifiés et qui sont plus ou moins répandus sur le sol ou de dimensions plus modestes, qu'on qualifiera d'arbrisseaux, puis d'arbustes s'ils sont un peu plus grands.
Voilà. Les aubépines qu'on trouve dans les haies sont rarement des arbres, alors.
Ils sont jamais des arbres.
Et pourtant, il y a des grands aubépines avec un seul tronc qu'on pourrait qualifier de petits arbres. Donc c'est un peu compliqué, mais on donne une généralité pour que tout le monde s'y retrouve.
Avec forcément des exceptions.
Voilà, avec plein d'exceptions.
Et je suppose que tous les arbres sont forcément des espèces vivaces, c'est-à-dire qui vont former leur cycle biologique sur plusieurs années.
Voilà, et alors ils sont forcément tous vivaces. Alors, de quoi sont-ils constitués? Alors, on pourrait dire que ce qu'on voit d'abord, c'est ce qui est au niveau du regard, c'est-à-dire le tronc principal et éventuellement des troncs secondaires ou plusieurs troncs. Mais il y a aussi une frondaison, des branches, des ramifications qui prolongent le tronc et l'ensemble des branches et du feuillage qu'on appelle houppier. Il y a aussi une partie souterraine, donc des racines qui sont en bois aussi. Donc il y aura pas mal de termes techniques qui vont être utilisés ce soir. On va parler des parties en bois et on les qualifiera de ligneuses. La lignine, c'est la matière qui constitue le bois. Donc c'est les racines sont ligneuses comme les branches, comme le tronc.
Fibres.
Voilà, ce sont des fibres denses qui constituent donc une matière solide. Plus ou moins dense selon l'espèce, plus ou moins solide, plus ou moins durable. Enfin, qui constitue le bois, chacun sait ce que c'est du bois.
Un arbre mort ne comporte plus de lignine alors?
Si, tant que, même des planches, c'est quand même de la lignine, c'est quand même du bois. Tant qu'elle n'est pas dégradée, c'est...
Mais il n'y a plus de sève qui circule.
Alors si on continue dans les termes encore un petit peu. Si on arrive en haut du houppier, la partie des arbres qui est exposée au soleil, surtout s'il y a beaucoup d'arbres et si on parle d'un ensemble d'arbres qu'on appellera la forêt ou le bois, alors la partie supérieure, la partie qui est exposée à la lumière, s'appelle la canopée. Alors je reviens à la partie souterraine, les racines. Alors il est difficile d'imaginer ce que représente la masse des racines dans le sol, mais si on pouvait comptabiliser l'ensemble du volume représenté par toutes les petites racines et les grosses, elles représentent davantage de volume que la partie aérienne.
Tronc compris.
Oui, tronc compris. C'est-à-dire que si par malheur un arbre s'arrache, si on l'arrache ou s'il s'arrache par exemple par le vent, on a l'impression qu'il y a quelques racines qui le maintiennent au sol, mais toute la partie des petites racines, elle est quasiment invisible, elle reste dans le sol.
D'accord.
C'est-à-dire que, enfin, on le reverra aussi par la suite pour le fonctionnement de l'arbre, mais il y a énormément de petites racines qui parcourent toute la surface et les quelques dizaines de centimètres sous la surface du sol pour pomper l'eau, et ça représente énormément de matière.
C'est un peu comme pour un iceberg, l'essentiel est situé sous la terre.
On pourrait comparer à un iceberg.
Sauf que l'iceberg, le rapport est de 1 à 9. Hein. Vous me dites là, c'est pratiquement équivalent à ce que j'ai compris.
Oui, c'est à peu près équivalent.
Et ça doit dépendre énormément des espèces, je suppose, et du type de sol.
Du type de sol, le type de sol conditionne la répartition des racines dans le volume du sol. C'est-à-dire que si c'est un sol dur ou si c'est un sol rocailleux, les racines seront plutôt superficielles. Alors que si c'est un sol très drainant, elles auront tendance à s'approfondir un petit peu. Mais le volume nécessaire pour pomper l'eau est toujours à peu près... le rapport est toujours à peu près identique.
Et les racines ne sont pas forcément souterraines, du coup.
Alors là, on arrive déjà dans ce qu'on pourrait après partager dans les exceptions, parce qu'il y a plusieurs sortes de racines. Il y a des racines souterraines pour certains cas. Bon, là, on parlera plus des espèces locales, mais certains arbres qui poussent dans les zones marécageuses ont des racines souterraines qui émettent des rejets aériens pour respirer. Alors on appelle ça des pneumatophores, mais ça n'existe pas sur les arbres locaux.
Et ce sont les palétuviers.
Non, c'est différent encore, les palétuviers.
Dans les mangroves.
Ouais, c'est encore différent. Non, ça concerne par exemple les cyprès chauves. Et d'autres cas où ce sont des racines aériennes qui, au lieu de démarrer de la base de l'arbre, démarrent des branches et descendent vers le sol. Donc, par exemple, les figuiers étrangleurs ou des arbres comme ça, mais ça n'existe pas non plus dans les forêts locales.
Après, on rentre peut-être dans les détails, mais il y a des arbres qui s'adaptent. J'ai en mémoire au lac de Der-Chandcoq, comment s'appelle déjà.
Le lac du Der,
voilà, ouais. Où il y a une forte battance quand il vide l'étang et quand il est en eau, et il y a des sols sur les berges et il y a des racines sur tout le tronc parce qu'elles ont besoin de respirer. Ouais, donc,
les parties immergées émettent des racines. Voilà.
Ça a été le même phénomène, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, quand une grande partie de la flandre maritime a été inondée ici, côté français et côté belge. Il y a eu énormément d'arbres qui ont été tués, apparemment par noyade, et seuls quelques seuls ont réussi à émettre des racines à 1,50 m, enfin à la hauteur de la hauteur d'eau de l'inondation pour pouvoir survivre.
Oui, parce que beaucoup d'arbres ne supportent pas l'inondation. Il y a que quelques espèces qui peuvent supporter d'être périodiquement inondés.
Radio Alain Spiegel, 91.8 FM, mais je vous rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur Internet, c'est quand même plus facile. www.alainspiegel.be.cx. On écoute The Boss.
I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Feel the devil's in dust. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry. Smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry. Smell began to rise. We've got God on our side. We're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful flame. It'll turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Fill it with devil's hand. Take a God-filled soul. Fill it with devil's hand. Righteous thing, find the love that God wills, and the faith that He commands. I've got my finger on the trigger, and tonight faith just ain't enough. When I look inside my heart, there's just devil's hand. But I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a dangerous thing. You'll turn your heart black, you can trust. You'll take your God-filled soul, filled with devil's hand dust. Take your God-filled soul, filled it with devils and us.
Bruce Springsteen, Devils and Dust, de l'album éponyme de 2005. Radio Allen Spiegel, l'association indépendante Outland Nature, vous présente ce soir dans son émission Le Cri du Kévit. Les arbres en Flandre, nous en étions à la définition de l'arbre, c'est une définition assez large. Et puis, on va parler un peu biologie des arbres. Comment ça marche, en fait? Question simple.
Simple.
Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la biologie des arbres. On va essayer de résumer et pas faire trop compliqué, mais comment ça marche, comment ça fonctionne? D'abord, un arbre, c'est bien sûr un être vivant. Ça naît, ça croît, ça grossit, ça grandit. On pourrait presque comparer, il y a une anatomie aussi, il y a des organes. On pourrait presque comparer un arbre, il faut avoir un peu d'imagination, mais à un animal ou même un être humain à l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, nous, en tant qu'être humain, on a nos organes, nos viscères à l'intérieur, les bronches comme un embranchement à l'intérieur, les intestins à l'intérieur, et un arbre, un végétal, c'est le contraire. C'est-à-dire que les parties qui respirent, les ramifications sont à l'extérieur, les parties qui servent à le nourrir sont à l'extérieur aussi, dans le sol. Vous voyez la comparaison? Pourtant, c'est un peu comme ça que ça marche.
C'est bizarre.
C'est bizarre, hein, c'est bizarre. C'est... Ouais. Nous, on inspire de l'air.
Ouais.
Gaz sont... L'oxygène est récupéré dans les poumons, dans les bronches, dans les alvéoles, alors que l'arbre les échanges gazeux se font directement dans l'air parce que les branches sont déployées, les feuilles sont déployées dans l'air.
Ouais. Ça, c'est pour la respiration.
Et pour la respiration. Alors...
Excuse-moi, je me permets, en bio, normalement, tube digestif,
voie respiratoire, c'est l'extérieur. Nous, on ingère des aliments, les intestins prélèvent ce qui est soluble le sang prélève ce qui est soluble dans ce qu'on a ingéré, qui passe dans les intestins. Mais... Les arbres, par les poils absorbants des racines, prélèvent ce qui est soluble dans le sol. C'est tout est inversé.
Mais le tube digestif est considéré comme un milieu extérieur.
Ah bon?
Pour nous. Donc en fait, c'est un tube creux. On est un tube creux.
Alors après, il y a un système circulatoire. Enfin, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de cœur comme chez un animal. Il n'y a pas de cœur pour faire circuler le sang. Là, c'est plutôt un système surtout mécanique, un peu physiologique, et la sève circule à l'intérieur. Alors on va continuer sur ce principe de fonctionnement. Les sels minéraux qui sont dissous dans l'eau du sol sont absorbés par les racines et circulent dans les vaisseaux du bois.
Alors quand tu dis, excuse-moi, les racines, c'est surtout les toutes petites radicelles.
Ouais, extrêmement petites. Ouais. Les poils absorbants sont à peine visibles à l'œil nu. Quelquefois, ils ne sont même pas visibles à l'œil nu. Les toutes petites racines,
c'est eux qui font le boulot.
C'est des sections qui font moins d'un millimètre. Hein, c'est tout petit. Alors l'eau circule dans les racines. Elle monte dans le tronc, elle circule dans toutes les ramifications à partir des racines plus importantes jusqu'au tronc, jusqu'aux branches, par les vaisseaux du bois. Donc toutes les parties vivantes du bois sont en fait des voies de circulation pour la sève brute. La sève brute, donc, c'est de l'eau et des sels minéraux. Ça arrive jusqu'aux feuilles, et par un phénomène qu'on appelle la photosynthèse, qui nécessite l'énergie lumineuse, les feuilles absorbent du gaz carbonique qu'elles prélèvent dans l'air. Et avec l'eau, fabrique du sucre. Et ce sucre va être transformé après par différents organes contenus dans les cellules des plantes, de toutes les plantes vertes, y compris les arbres, donc, et va être transformé en d'autres matières secondaires, c'est-à-dire du saccharose, de la cellulose, etc., qui vont être donc des matières nourrissantes que les plantes vont mettre en réserve et qui vont être en même temps, enfin, en plus des matières constituantes qui vont fabriquer l'organisme de la plante.
C'est grâce à la présence de la chlorophylle.
Alors la chlorophylle
dans tous les végétaux.
Voilà la chlorophylle donc qu'on
végétaux
voit.
Végétaux verts.
À l'œil nu comme un pigment vert est en fait un ensemble de petits organes qui sont contenus dans chaque cellule verte des plantes et qui captent l'énergie lumineuse pour transformer l'eau et le gaz carbonique en sucre. Et cette transformation chimique produit en sorte en quelque sorte un déchet qui est de l'oxygène et qui est bénéfique pour tout le monde bien sûr, mais dont la plante n'a pas besoin parce qu'elle en produit en excès, elle retire de...
C'est en ce sens-là qu'on entend le mot déchet, c'est déchet par rapport
déchet,
à l'arbre. Hein.
Dans le sens où c'est quelque chose que l'arbre rejette.
Rejette, mais nous, pour
bien
nous,
sûr, c'est pas un déchet. Oui, bien sûr, on en a besoin. Même
donc elle absorbe du gaz carbonique, donc
les plantes absorbent du gaz carbonique.
pour rejeter de l'oxygène.
Voilà.
Donc c'est pour ça que les arbres sont considérés comme les poumons verts de la Terre, de la planète.
Oui, mais c'est faux justement, puisque quand on dit les poumons, on pense à nous, et nous les poumons on rejette pas l'oxygène. Ouais. C'est l'inverse. L'expression ne tient pas tellement quand on dit les forêts mondiales sont les poumons de la planète. Non, l'image n'est pas bien choisie.
Les arbres, ils font deux choses. Ils se nourrissent en prenant du dioxyde de carbone, mais ils respirent aussi. Et la formule, les petits éléments dans la cellule, pour ceux qui seraient au niveau bas, qui aient un petit peu de révision.
Alors, oui, parallèlement à la photosynthèse, ils ont un métabolisme comme tous les autres organismes, et ils consomment de l'oxygène pour leur métabolisme. Mais ils consomment beaucoup moins d'oxygène qu'ils n'en rejettent. Donc, le rapport est bénéfique pour les autres. Nous, on rejette du gaz carbonique.
Pour les arbres.
Pour les arbres, voilà. Et eux rejettent de l'oxygène qui est intéressant pour nous. Alors voilà pour le. Alors la photosynthèse, c'est un phénomène dont on peut pas se passer, puisque non seulement ils rejettent de l'oxygène dont on a besoin pour la respiration, mais ils produisent, pas seulement les arbres, c'est les végétaux verts d'une manière générale, produisent les matières premières de toute la chaîne alimentaire.
Donc, est-ce qu'il faut sous-entendre par là qu'il ne peut pas y avoir d'arbres qui sont parasites où ça profite, c'est-à-dire qu'ils vont profiter d'autres arbres ou d'autres arbustes pour pouvoir survivre?
Dans ce sens-là, non. Alors, on peut expliquer peut-être ce que ça veut dire parasite où ça profite. On va considérer comme parasite un organisme qui est incapable de... d'abord de produire sa propre substance et qui la prélève sur un autre organisme vivant. Un prédateur, c'est un organisme qui consomme sa proie, un prédateur. On va juste donner quelques définitions comme ça. Mais un parasite ne consomme pas sa proie, mais il vit aux dépens d'un autre organisme, d'un organisme hôte, on va dire.
Ça lui cause de tort.
Ça l'a fait plus ou moins. Et tandis qu'un organisme s'approfite, ça profite à tout le monde, mais qui utilise des matières organiques mortes, comme la plupart des champignons par exemple, ou comme des charognards, etc.
Donc eux ne produisent pas de photosynthèse.
Non, ils ne produisent pas de photosynthèse. Alors il y a des organismes qui sont des parasites partiels, comme le gui par exemple, qui utilise la plante hôte pour prélever la sève brute, mais qui fait sa propre photosynthèse, donc qui produit sa propre substance. Mais les plantes parasites pures, généralement, n'ont pas de chlorophylle du tout, et prélèvent l'ensemble des matières dont elles ont besoin sur la plante hôte.
On peut poursuivre la comparaison avec l'être humain quand on parle de photosynthèse, puisque nous aussi, êtres humains, avons besoin d'une photosynthèse, peut-être pas aussi importante en comparaison, mais on a besoin de lumière, sinon je pense pas qu'on vivrait aussi longtemps.
Pas pour les mêmes raisons, ni pour s'alimenter.
Ouais, voilà. Non, pas pour respirer ni s'alimenter, mais pour retirer quelques vitamines.
La photosynthèse, c'est quand même
une forme d'alimentation
complexe et qui sous-entend l'utilisation de l'énergie solaire pour produire la propre matière, la matière constituante de l'organisme, et qui va servir après de base à la chaîne alimentaire.
Et quand l'arbre fabrique sa propre matière, il va stocker en fait le carbone de l'air, et c'est pour ça qu'on va appeler ça des matériaux stockeurs de dioxyde de carbone.
Est-ce que la photosynthèse est primordiale à la survie d'un arbre? Je pense notamment à certains troènes qui sont attaqués tous les ans par des hypnomotes, donc qui sont des petites chenilles de papillons de nuit, qui très très tôt dans le printemps vont réussir à manger toutes les feuilles, et pourtant le troène survit depuis des années.
Alors il ne pourrait pas survivre s'il n'était pas capable de refaire des feuilles sur une partie de la saison. C'est-à-dire que si on lui supprime les feuilles pendant toute l'année, il ne pourrait pas survivre deux ans comme ça. Il faut absolument qu'il refasse des réserves. Alors il peut vivre pendant quelques temps sur ses réserves, mais ça a une limite. Les arbres qui sont défeuillés pendant deux saisons de suite, généralement ils meurent. Par les papillons ou par d'autres, même par exemple un petit arbre qui serait mangé par une chèvre continuellement, au bout de deux ans il est mort. Il faut qu'il fasse absolument des feuilles pour refaire ses réserves.
Il y a des réserves qui sont stockées aussi dans les racines et dans la souche.
Mais il a besoin de cette énergie pour repousser, mais si on l'empêche toujours de repousser, on peut tailler les arbustes ou les arbres courts à condition qu'on leur laisse des feuilles, sinon ils s'épuisent très vite et ils dépérissent.
Bah voilà, on voit comment ça marche.
Ouais.
On a fait le tour, comment ça marche, comment ça vit.
Est-ce que le gui est considéré comme un arbre?
Non, on pourrait le considérer plutôt comme un arbuste dont le support est un arbre. Parce que les dimensions sont limitées. Hein. Pour le gui, ça dépasse jamais un mètre de diamètre, une touffe de gui.
Parce que l'écorce du gui est souvent ligneuse quand même.
Oui, il y a du bois, mais ça serait un arbuste. Au lieu de pousser sur le sol, il pousse sur un arbre.
C'est un peu pareil que pour le lierre. Ouais. Ça fait aussi des troncs, ce qui ressemble à des troncs. Mais...
Alors le lierre, on le considérerait plutôt comme une liane et non comme un arbre, parce qu'il ne peut pas se tenir debout.
Il a besoin
d'un
support.
Pour revenir à la question de Barre tout à l'heure, il n'y a pas d'arbre qui soit ni parasite complet, ni saprophyte. Mais ils ont tous. Il existe des plantes à fleurs qui sont complètement parasites et qui vivent sur les racines d'autres plantes, donc ils n'ont pas de chlorophylle, qui ne font pas de photosynthèse. Mais on ne peut pas en dire autant pour des arbres.
C'est le cas dans nos dunes, notamment des orobanches.
Voilà, par exemple.
L'orobanche du lierre qui va parasiter le lierre, l'orobanche du gaillet, gaillet, l'orobanche pourpre, l'Achillée millefeuille, c'est un piège. Donc ça, ce sont des espèces, effectivement, qui vont vraiment vivre aux dépens des autres espèces et qui ne produisent pas de photosynthèse.
Elles n'ont pas de racines, elles ont des suçoires qui s'installent sur les racines d'autres plantes, les plantes hautes que tu viens de citer, et donc elles n'ont pas besoin de chlorophylle puisqu'elles prélèvent l'ensemble des substances dont elles ont besoin directement sur les racines des plantes hautes.
Et elles ont quelle couleur ?
Alors, il y en a plusieurs couleurs, elles sont plus ou moins brunes, plus ou moins violettes, pourpres.
Mais elles ne sont jamais vertes, par contre.
Elles ne sont jamais vertes.
Non, parce qu'elles n'ont pas de chloroplaste. Mmh.
Est-ce que des arbres peuvent vivre uniquement avec des bulbes ?
C'est pas des.
Je suppose pas, mais.
Non, il n'y a pas d'arbres bulbes. Non,
C'est forcément des racines.
Il y a des racines. Alors, il y a des arbres. Alors, il y a, on va dire, des cas particuliers, mais qui ne répondent pas aux critères que tu viens de donner, Bart. Des arbres qui poussent d'abord, ils font une partie de leur cycle végétatif sur d'autres arbres. On parlait tout à l'heure des figuiers étrangleurs qui germent sur des arbres, sur le houppier des arbres, et émettent des racines qui descendent jusqu'au sol. Puis quand les racines arrivent au sol, elles grossissent, le figuier grossit, et l'arbre qui est en dessous finit par être étouffé. Mais il s'en sert de support, mais il prélève rien dedans. L'arbre qui est en dessous meurt par étouffement. C'est un peu comme du lierre qui utilise l'arbre comme support, sauf que le lierre ne devient jamais assez gros pour étouffer
l'arbre.
Alors on peut peut-être faire la liaison avec au niveau de l'alimentation avec ce qui se passe en hiver. L'hiver, les feuillus, si on parle des feuillus, perdent leurs feuilles. Donc là, ils ne se nourrissent plus par photosynthèse.
Alors j'allais revenir sur les catégories d'arbres un peu plus loin, mais on peut déjà parler des feuillus. En ce qui concerne les feuillus, on va dire qu'il y a deux types de feuillus. Des feuillus à feuilles caduques. Mmh. Alors les feuillus, qu'est-ce que ça veut dire des feuillus ? Les feuillus, ce sont des arbres qui ont des feuilles plus ou moins larges, contrairement aux résineux, entre guillemets, les résineux qui ont généralement des feuilles en forme d'écaille ou des feuilles en forme d'aiguille, plus fines. Donc les feuillus sont les arbres à feuilles larges, quoi qu'il y ait des arbres feuillus avec des feuilles étroites, comme des saules par exemple. Enfin bon, on ne va pas non plus à chaque fois chercher le petit détail qui fait exception.
Je dirais à feuilles planes.
À feuilles planes, voilà.
Contrairement aux résineux, c'est plutôt rondes. Ouais. Anguleux, enfin.
Ouais. Ouais. Et là encore.
Là, ouais.
Et donc des feuillus à feuilles caduques, donc qui arrêtent leur végétation pendant la saison la plus difficile. Alors ici chez nous, ça sera pour les régions tempérées ou froides, ils arrêtent la végétation pendant l'hiver. Donc les feuilles tombent à l'automne, repoussent au printemps. Si ce sont des arbres tropicaux, ça sera plutôt saison des pluies, saison sèche.
Oui.
Et d'autres arbres feuillus qui ont des feuilles persistantes, donc qui sont adaptés à des climats, soit des climats constants, donc équatoriaux par exemple, ou alors méditerranéen, où il ne fait jamais très froid et où la végétation peut toujours, même au ralenti, se poursuivre.
Et qui ne perdent pas toutes leurs feuilles.
Qui ne perdent pas toutes leurs feuilles.
Je pense par exemple au houx, qui reste vert toute l'année, mais les feuilles
se renouvellent, mais il y a toujours des feuilles. Voilà,
ouais. C'est un terme, je pense, des arbres comme ça. C'est pas les arbres sempervirents.
C'est pareil que persistant, c'est la même chose. Mmh. Persistant, impervirant, ça veut dire toujours vert.
Toujours vert également. Oui.
Alors les arbres qui perdent leurs feuilles, soit à la saison sèche, soit à la saison froide, donc ont une vie ralentie. Les feuilles sont plus actives pendant la saison de croissance. Elles mettent donc elles fabriquent des sucres plus ou moins composés après qu'elles mettent en réserve. Alors les sucres composés. Généralement pour les plantes à fleurs, les sucres composés, c'est souvent de l'amidon. Souvent, parce qu'il y a aussi encore des exceptions. Et l'amidon, c'est une matière en fait qui est une matière énergétique que les plantes peuvent stocker et qu'elles vont réutiliser par exemple au printemps pour redémarrer la végétation. Alors là, c'est pas pour les arbres, mais les cas qu'on connaît le mieux, c'est la pomme de terre ou la betterave hein, qui stocke énormément. Mais là, ce sont des variétés qui ont été améliorées par l'homme. Mais la pomme de terre, naturellement, même les petites pommes de terre. Elle stocke pour pouvoir passer la saison défavorable à l'abri et puis redémarrer au printemps.
Voilà. Il y a des arbres aussi qui, on dévie peut-être un peu là, qui stockent l'azote de l'air sous forme de nodosité dans les racines.
Alors ça c'est autre chose, il faudra qu'on y revienne aussi.
Bon, je ne vais pas court-circuiter, on va chanter.
Radio Alain Spiegel dans l'émission Le Cri du Kivit, vous avez remarqué, nous ne parlons que de vie. Et ce soir, le thème, ce sont les arbres qui sont effectivement de grands êtres vivants. Et bon, je pense toujours à Alain Baraton quand il en parle. Il a beaucoup de poésie. Et là, dans le genre poésie, on va écouter Bernard Lavilliers. Vivre encore.
Un squelette de phosphore. La terre tremble sur le pont d'Antan. On prend dans la poussière, fracasser les ministères d'Antan. Séduisant une mauvaise femme, le diable fait ses affaires d'Antan.
Avec Bernard Lavilliers, mais c'est pas vraiment la bonne plage. Ça va repartir. Vivre encore, elle est superbe cette plage.
Quand tu n'entends plus, dans ton cœur trop lourd, bat tout au sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil. Comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure. Faut vivre encore. Combien de ratures, combien de nuits blanches, pour toucher de près ce chant qui monte. Ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli. Et vivre encore. Vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle, ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre, ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour. Et vivre encore, vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang. De l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. lâcher pour cette altitude ce qu'il faut forcer pour la solitude. Faut de la présence pour tenir la scène, prendre des distances pour tenir la tienne et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri. Cri du sang. De l'amour aussi. Vivre ailleurs. Survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Quand tu n'entends plus, dans ton cœur trop lourd, bat tout ton sang noir, voiler les tambours. Et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure. Faut vivre encore. Faut vivre encore. Et vivre encore.
Bernard Lavilliers, son dernier album Baron Samedi, Vivre encore, une émission de Cri du Crévite. Je vous rappelle que nous parlons des arbres. Alors le thème général, c'est les arbres dans notre région, mais il faut bien qu'on développe un peu. On a parlé donc comment ça marchait, et là on est en pleine biologie, où notre ami Vincent va aborder la question des différentes espèces peut-être.
Oui, il y a peut-être encore quelques petites choses à dire sur la
Alors quelques petites choses.
Alors, pour revenir à la croissance des arbres, les arbres, d'une manière générale, poussent de deux façons. En hauteur, donc enfin, l'accroissement en longueur et en hauteur des rameaux, les arbres grandissent, et aussi en épaisseur, c'est-à-dire que le tronc, au fur et à mesure que l'arbre grandit, le tronc s'épaissit. Donc chaque année, pour la majorité des arbres, chaque année, le tronc, en grossissant, produit une cerne de croissance, ce qu'on appelle une cerne de croissance, ce qu'on peut voir quand on coupe un arbre.
Les fameux cercles qu'il faut compter. Voilà,
transversalement, on voit donc les cercles plus ou moins concentriques, plus ou moins, parce que selon la disposition de l'arbre, ça peut grossir plus ou moins d'un côté, mais enfin, grosso modo, c'est concentrique. Et chaque cerne correspond à une année de croissance. Mais là encore, il y a des exceptions, parce qu'il y a des catégories très très particulières d'arbres qui n'ont pas de croissance en épaisseur. Ce sont par exemple les palmiers, qui sont, bon là c'est encore un autre terme, mais ce sont des monocotylédones, et il n'y a pas d'assise de croissance en épaisseur. C'est-à-dire que au fur et à mesure que le palmier grandit, il a déjà quasiment son diamètre définitif.
Mais est-ce qu'on peut appeler un palmier un arbre? C'est pas une herbe, une plante
Non, c'est pas une herbe. C'est pas une herbe parce que c'est quand même constitué de matière dure. Donc c'est un tronc en particulier qu'on appelle stipe. Mais c'est un tronc quand même parce que c'est rigide, presque comme du bois. Ça peut avoir, quoique dans la famille des palmiers, il y a aussi des herbes.
On ne s'étale pas sur les palmiers, on va dire en Flandre un peu.
Mais bon, on peut les considérer quand même comme des arbres. Il y a des palmiers quand même de très grandes dimensions. Donc qui rentre dans la définition qu'on a donnée tout au début de l'exposé. On pourrait dire la même chose des bambous, dont certaines espèces sont très très volumineuses, qui sont donc en quelque sorte des arbres, hein, qui peuvent avoir quelquefois 10, 15, voire 20 cm de diamètre, et qui ont aussi presque le diamètre définitif dès le début de leur croissance. Ouais. Et d'ailleurs l'intérieur est creux et il n'y a pas d'assise secondaire, donc il pousse seulement en longueur, avec généralement une croissance déterminée à l'avance. C'est-à-dire que ça fait presque comme une antenne télescopique. Le bourgeon contient tout le bambou et puis ça pousse très vite, ça se développe et il se déploie comme si c'était une antenne. On pourrait comparer à ça parce que c'est facile à imaginer ce que c'est. Mm-hmm. Donc voilà pour la croissance et les troncs particuliers.
Alors ça, je suppose que c'est énormément dû aussi au climat et à la région dans laquelle on se trouve. Je suppose qu'en zone équatoriale, où il y a toujours des conditions météorologiques qui sont favorables, où il fait toujours chaud, il n'y a pas de saison.
Non, ça c'est pas lié. C'est dû à l'origine de ces familles de plantes qui ont eu, dans les millions d'années qui ont précédé. Enfin, en fait, Si on, pour faire une image un peu parallèle, dans leur arbre généalogique, ils ont un point de départ différent. Et donc, ils ont la nature leur a donné un fonctionnement différent, y compris dans la croissance. Les bambous sont des graminées, donc ça, grosso modo, ça a le même mode de développement que du blé, sauf que c'est ligneux et vivace. Donc, au lieu d'avoir une tige annuelle comme du blé, ça a une tige rigide et avec un développement qui dure plusieurs années.
C'est l'exemple du séquoia dont on dit, moi je me souviens, j'étais enfant, on disait le plus haut, le plus grand arbre du monde, et une route qui devait passer au milieu, il me semble. C'est pas
ouais,
ça.
Il y a une petite,
en Californie,
une petite route qui permet au moins à une grosse voiture de passer en dessous.
Donc ça veut dire, de par sa nature, c'est un arbre qui se développe tout en hauteur.
Alors lui, c'est un cas typique d'arbre qui lui continue à se développer. En hauteur et en largeur. Donc si on coupe un séquoia, on peut compter les cernes de croissance.
Sans problème. Ouais.
Mais est-ce que du coup, un cerne, enfin une cerne plutôt, représente une année?
Oui.
À tous les coups.
Ouais. À tous les coups.
Même en forêt équatoriale. Parce qu'il m'avait...
Alors, en forêt équatoriale, quand la croissance est continue, on ne distingue pas les cernes.
Voilà.
Parce que, bon, si on regarde au microscope les cernes, de quoi sont-elles constituées? En fait, c'est parce qu'il y a des rangées. Comme on a dit tout à l'heure, le bois est constitué de vaisseaux. Donc si on regarde au microscope, on voit tous des petits canaux les uns près des autres. C'est comme des tubes juxtaposés. Mmh. Et pendant la période de croissance active, les tubes ont un plus gros diamètre. Mmh. Ils nous paraissent donc clairs. En fin de saison, les tubes diminuent, sont plus serrés. Et à l'œil nu, ça nous paraît plus dense. Et donc on a l'impression d'avoir une ligne claire, une ligne foncée, une ligne claire, une ligne foncée. Mmh. Si on regarde au microscope... On voit pas, on voit clair foncé si on veut, mais en fait on voit des grands tubes, des petits tubes, des grands tubes, des petits tubes. Bon, c'est très imagé aussi.
Ça veut bien dire ce que c'est. Voilà.
Et quand on a des étés secs, les cernes sont plus.
Alors voilà, on peut retracer l'histoire des arbres coupés. Bien sûr, il faut qu'ils soient morts, ou alors il faut faire un prélèvement, un carottage dans l'arbre, ce qui n'est pas du tout facile, mais il y a des spécialistes qui peuvent le faire. Mais sinon. En voyant sur une coupe d'arbre quelqu'un qui connaît un peu, qui peut analyser, il peut retracer les conditions climatiques de la vie de l'arbre, les années où il a fait sec, où il a moins grandi, les années où il a eu toutes les bonnes conditions et il a beaucoup grandi. Et on voit de toute façon, d'une manière générale, les premières années, les cernes sont tout petits parce que l'arbre, il a un petit diamètre, il grossit peu. Puis les années suivantes, il y a une période, selon les espèces aussi, par exemple, entre... 10, 20, 25, 50 ans, oui, il grandit vite, les cernes sont larges, puis après il vieillit, les cernes se rapprochent. Alors s'il y a, par exemple, dans une période de croissance où l'arbre est jeune, il devrait pousser vite, mais qu'il y a une année très difficile, une année de sécheresse par exemple, une cerne étroite, en voyant la ligne de vie, entre guillemets, de l'arbre, on peut voir les années où il a eu des difficultés à pousser. Alors, il y a...
À propos de cerne, la comparaison peut aussi se faire avec l'homme quand on parle de cerne.
Non, on parle de cerne. Tu peux le voir dans les cernes des dents. On a découvert ça. On a des cernes dans les dents qui correspondent à une année par cerne. Et ça se voit sur les femmes qui ont une grossesse. Le cerne est beaucoup plus petit. Donc, tu peux compter le nombre de grossesses chez une femme à l'intérieur de ses dents.
C'est ce qui a permis notamment, quand ils ont retrouvé un cadavre de loutre au Blancarte, de dire que le cadavre datait de 1989 et à partir de l'analyse d'une molaire, ils ont réussi à dire qu'il s'agissait d'une femelle adulte qui avait eu 3 jeunes cette année-là. Et c'est pareil quand il y a eu un blaireau qui a été trouvé mort à la panne, là aussi ils ont fait une analyse d'une de ses dents et ils ont aussi réussi à trouver que c'était une femelle patriarche d'un groupe. Et on cherche encore le reste de la colonie. Mais c'est incroyable ce qu'on peut rechercher dans des dents ou dans des troncs. Est-ce que ça a un terme, justement, l'étude des climats à partir des cernes?
La science qui fait le lien entre la croissance des arbres et le temps, la dendrochronologie, permet de trouver certaines choses. Par exemple, si c'est sur des bois utilisés en construction, ça peut permettre de dater éventuellement en comparant les croissances des arbres et le type d'arbre. Ça peut permettre de dater la construction. Ou sur les arbres, ça permet de donner l'âge de l'arbre éventuellement.
Et de faire des climats. Par contre, je vais quand même faire une remarque, c'est que la dendrochronologie marche très très mal en Flandre. dans la mesure où les arbres poussent le cul dans l'eau, quasiment. Moi, je sais que j'ai fait venir l'université de Liège pour dater ma maison, et ils en sont arrivés à la conclusion que tous les cernes étaient de la taille identique, année sèche ou pas, et dernièrement, j'ai coupé des arbres chez moi, on voyait aucune différence entre 2003 et les autres années. Mais j'ai une maison tout près de l'eau, mes arbres poussent presque dans la rivière. Et les arbres de la construction de la maison, ils devaient être de la même zone. Donc, on peut pas dater. Dans la région, on peut pas dater on peut pas utiliser la dendro.
La dendrochronologie, c'est la mesure du temps, et dendro d'arbre. Donc, c'est la mesure du temps à partir de l'arbre, soit l'arbre tel qu'il est, soit ce qu'on en a fait, quoi. Comme Lily dit, soit de la construction, etc., ou des bateaux, des choses comme ça. Mais bon, c'est quand même une science particulière. Il faut avoir de quoi comparer pour savoir s'y retrouver.
Et on m'avait toujours dit aussi que les bois tropicaux étaient préférés aux bois des forêts tempérées parce qu'ils avaient justement passé cernes et que ça avait un plus beau rendu. C'est vrai ça ?
Alors ça c'est une question de goût après. Ce qui est du plus beau rendu. Après il faut savoir comment c'est prélevé, si ce sont des forêts bien gérées ou si ce sont des forêts pillées, enfin si je peux me permettre le terme. Mm-hmm. Oui, après ce qui est rendu, bon... Bon, et après, il y a des bois exotiques, bien sûr, qui ont la particularité de résister aux aléas du climat, qui résistent dans le temps, aux intempéries, etc. Mmh. Mais je pense pas que ce soit dû au fait qu'il y ait des cernes ou pas. Il y a des bois durs aussi qui poussent dans les régions tempérées, qui résistent bien au temps.
Alors ?
Donc, on peut utiliser aussi bien des bois d'ici, des bois locaux, qui sont durs et... des chênes par exemple ou des robiniers qui sont des bois durs qu'on peut utiliser même en mobilier d'extérieur. Bon là on change un peu de sujet. Mais...
Oui. En tout cas moi j'ai appris là qu'il y avait des cernes dans les dents. Je connaissais que les cernes sous les yeux moi.
Ça c'est quelqu'un qui vient souvent faire des réunions dans la région. C'était une réunion sur Berg du docteur Charlie. Mm-hmm. Spécialiste des morts.
Pour poursuivre peut-être avec les parties de l'arbre, on va s'arrêter maintenant sur le tronc, mais plutôt peut-être de revenir sur les parties qui sont à l'extrémité des arbres. Ce sont les feuilles. Bon, on va pas rentrer dans le détail des feuilles parce que alors là,
le temps d'émission, ouais, avec des différents types. Ouais.
Et en plus des feuilles, bien sûr, il y a des fleurs pour les arbres à fleurs et des fruits pour les arbres à fleurs qui donnent donc des fruits généralement. Et ça,
donc
ça nous amène.
On en vient au mode de reproduction.
Voilà, ça nous amène au mode de reproduction. Les arbres, d'une manière générale, donnent des graines. Et les graines sont produites par la reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il faut des organes mâles, des organes femelles que portent les arbres. Quelquefois, sur des arbres différents. Ils sont dits alors dioïques, par exemple, sur les. Nombreux exemples, les saules, les peupliers, les frênes quelquefois, les frênes souvent même. Sinon, généralement, plus généralement chez les arbres, au moins les arbres de nos régions ici, ce sont des arbres monoïques, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs mâles séparées des fleurs femelles, mais sur le même arbre.
D'accord.
Par exemple, les chênes, les châtaigniers, les bouleaux, les aulnes, etc., etc., les hêtres. Donc ils sont quand même une bonne partie des espèces qui représentent le boisement ici.
Chez nous, oui.
Ouais. Voilà pour la. Alors pour la partie reproduction sexuée toujours. Sexuée, c'est-à-dire qui a nécessité d'avoir des fleurs sexuées, parce qu'on verra après qu'il peut y avoir d'autres modes de reproduction. Quand ce sont des. Enfin, ici, pour les arbres régionaux aussi, généralement, c'est une pollinisation qui se fait par le vent. Donc la pollinisation, c'est l'opération qui consiste à transporter le pollen mâle jusqu'aux parties femelles des fleurs pour les polliniser, donc les féconder et produire de la semence. Généralement, ça se fait par le vent. Je parle bien pour les espèces locales, quelquefois par les insectes.
C'est le cas des saules notamment, je pense, essentiellement.
Alors les saules, c'est un peu particulier deux. Parce que là, c'est les deux. Les abeilles aussi, ils mettent leur contribution. En revanche, pour les peupliers, c'est le vent. Les chênes, les saules, c'est le vent. Les ormes fleurissent très très tôt en saison. C'est surtout le vent. Les insectes, généralement, ne sont pas encore éveillés.
Et le châtaignier, parce que ce sont des espèces qui attirent souvent les insectes.
Le châtaignier fleurit beaucoup plus tard dans la saison. Ça fleurit au mois de juin. Juin. Et là, les abeilles aussi, ils mettent une bonne contribution. Les tilleuls, ce sont surtout les insectes. Là, c'est une autre catégorie de fleurs qui est très très riche en nectar.
Et les arbres fruitiers.
Les arbres fruitiers qui ont des fleurs aussi entomophiles, c'est-à-dire qui attirent les insectes.
Du miel ou pas. Si on produit du miel de châtaignier ou du miel de tilleul, c'est qu'il y a pollinisation par les insectes.
Ouais, de toute façon, le tilleul a forcément besoin des insectes, sinon il ne produirait, produirait pas de graines. Hein. Il faut que les insectes viennent transporter le pollen. La particularité de ces fleurs, justement, c'est que les arbres qui ont des fleurs qui pollinisent par le vent n'ont pas de pétales ou n'ont pas d'organes qui attirent les insectes. Ce ne sont pas des fleurs jolies, mais ce sont plutôt des fleurs qui sont très très souples, qui produisent beaucoup de pollen, qui sont secouées par le vent. Le pollen est dispersé en masse, un pollen très volatile, dispersé en masse dans l'air. C'est le cas des bouleaux, par exemple, dont certaines personnes prétendent qu'elles sont allergiques au pollen. Enfin, prétendent, quelquefois, c'est plus que de la prétention. C'est avéré, bien sûr. Parce que, justement, les bouleaux émettent énormément de pollen volatile qui est dispersé par le vent et que les gens respirent. On en respire. Alors que, par exemple, le tilleul, qui produit des fleurs censé être visité par les insectes, n'a pas besoin de produire beaucoup de pollen puisqu'il sait que les abeilles vont venir le chercher. Et c'est ciblé, elles vont aller d'une fleur à l'autre et c'est pas la peine de gaspiller. C'est un autre modèle.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens allergiques au boulot.
Il y a beaucoup de gens allergiques au boulot.
C'est vrai.
Alors qu'au tilleul, non, ça les calme tout de suite. Mais il existe, en plus des fleurs...
C'est un calmant, le tilleul.
Oui, oui. En plus des fleurs, il existe d'autres types de reproduction. Par exemple, l'orme, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais l'orme, comme d'autres types d'arbres, a la particularité de pouvoir émettre des drageons sur les racines. Donc, il peut faire éventuellement des colonies d'arbres, ou bien, après, l'homme peut même prélever des drageons et les replanter, faire des haies d'orme à partir d'un seul sujet, sans avoir recours au semis.
Alors un drageon, c'est-à-dire la racine
c'est un petit arbre qui se développe à partir des racines.
D'accord.
L'exemple classique, c'est le lilas. Enfin, c'est pas.
Oui, par exemple, le lilas.
Drageon facilement.
Oui.
Mais là, c'est plus sexué.
Là, c'est pas sexué. Voilà, c'est pas sexué. Après, il peut y avoir du bouturage, par exemple, pour des sols ou des peupliers. Si des petits rameaux tombent au sol, ils peuvent s'enraciner et produire un nouvel arbre. C'est d'ailleurs un mode de reproduction qu'on a après mis en pratique en culture. Pour propager des sols, il suffit de couper des petits morceaux et les replanter, et puis ça donne des sols, presque autant de sols que de bâtons qu'on a plantés, sans avoir recours aussi au semis.
Voilà, il y a un peu le même principe qu'on appelle le marcotage, c'est-à-dire une branche.
Alors le marcotage, contrairement au bouturage, le bouturage, on prélève un rameau, on le plante séparément de la plante mère, alors que le marcotage, il faut d'abord coucher une branche, la laisser s'enraciner, et on le sépare ensuite.
Voilà.
Elle serait peut-être pas capable de s'enraciner si on le sait pas avant.
Ça existe aussi chez les arbres, ça.
Chez beaucoup d'arbres d'ornement, ça se pratique. Dans la nature, exceptionnellement, oui, mais dans la nature, ça se fait. Par exemple, pour le cornouiller, c'est aussi, en plus du semis, le cornouiller se marcotte naturellement. C'est-à-dire que les branches se posent au sol, et puis elles s'enracinent, et ça se propage comme ça.
Après,
certains cornouillers, en tout cas.
Après, c'est plus un arbre, mais on peut donner l'exemple de la ronce. C'est la branche qui retouche au sol et reprend racine.
C'est l'exemple classique du marcotage. Là, ouais.
Et pour poursuivre encore sur la reproduction, en plus de la pollinisation, il y a après la dispersion des graines. Donc ça peut se faire également par le vent. Beaucoup d'arbres produisent des fruits munis de poils ou munis d'une aile qui est facilement déplacée par le vent. Certains aussi.
Le cas le plus typique, c'est le frêne.
Ouais, les frênes, ou les érables, les ormes. Hein, c'est un fruit.
Les hélicoptères. Comme
les érables, les fruits d'érable. Donc c'est un petit fruit relativement léger, fermé, et muni d'une aile qui est de forme variable. Hein, comme l'orme, c'est plutôt la forme d'un disque.
Ovale. Ouais.
Le frêne, c'est plutôt une aile allongée. L'érable également. Hein, l'érable comme des petites hélices.
Forme de boomerang.
De boomerang, oui.
Ouais, si on veut.
90 ou 180 voilà. Presque.
Et c'est le cas aussi des peupliers et des saules qui ont des... Alors là, c'est pas le fruit qui s'envole, mais c'est un petit fruit en forme de capsule qui s'ouvre et qui libère des graines poilues, qui sont dispersées également sur des kilomètres par le vent. Et alors d'autres types de graines plus lourdes, par exemple des glands, des noix, des faines de hêtre, qui sont consommées par les oiseaux ou par d'autres animaux, des rongeurs éventuellement, mais ils en consomment une partie et ils en dispersent une partie, ils en oublient. Ce qui permet à ces arbres de regermer un peu plus loin de l'endroit où elles sont tombées.
C'est le cas par exemple du chêne pédonculé, où on a remarqué que dans certaines forêts où le jet des chênes n'était pas présent, les glands avaient beaucoup de mal à se disperser et le chêne n'arrivait pas à se disperser au sein de la forêt. Et dès que le jet est arrivé, donc le jet se nourrit énormément de glands de chêne qu'il va cueillir à la fin de l'été, début de l'automne. Il va les cacher dans des endroits qu'il va réussir à retrouver tout l'hiver, mais il est généralement plus gourmand que ce qu'il va manger. Et il en reste toujours quelques-uns par-ci par-là qui arrivent à germer et du coup permettre la propagation du chêne.
Peut-être qu'il ne sait plus où il les a cachés.
Ou il ne sait plus où il les a cachés.
C'est pas parce qu'il jette des glands qu'on l'appelle le jet des chênes.
Radio Alan Spiegel, nous allons enchaîner avec une bonne musique d'Al Jarreau. Dans le cri du Kévit, vous avez écouté Al Jarreau Morning. Le cri du Kévit, je vous rappelle ce soir, les arbres, donc on est dans la vie. Et avant de continuer l'émission, comme d'habitude, ce temps-là, à l'heure de 20h, il faut à mi-parcours, il faut que je vous fasse une courte annonce en vous disant que sur Radio Allen Spiegel, samedi prochain, donc le 7 décembre, de 10h à 11h, ce n'est pas un téléthon, c'est vrai qu'on est dans le week-end téléthon, donc de 10h à 11h, histoire et légende de Flandre avec Eric Vanneville, un écrivain local assez connu.
Historien.
Donc, la vie des arbres et une question d'auditeur qui nous a, pendant le passage de le petit disque d'Al Jarreau, qui nous disait « Messieurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ce brave auditeur appelait la neige qui est au printemps, qui va tomber, hein, sans toutes ces boules, on a tous connu ça. Hein. » Alors, messieurs, la réponse, s'il vous plaît.
Alors, généralement, il s'agit de justement de...
C'est graines. Un genre de watt, quoi.
Oui, c'est ça. C'est une sorte de watt qui est due au... La dispersion des graines de peupliers, des sols d'abord, puis les peupliers. Les sols sont quand même, les graines de sol sont plus petites. Hein, c'est des graines poilues aussi, mais les peupliers, c'est conséquent. Sous les peupliers, on dirait vraiment qu'il y a du coton qui pose. Alors quelquefois, il y a la confusion avec du pollen. On a l'impression que c'est du pollen qui vole, mais le pollen n'est pas visible à l'œil nu. Le pollen qui se répand dans l'air, on le voit pas. Éventuellement, sur des conifères, si on le secoue, on voit au niveau de l'arbre, là où ça se disperse, mais une fois que ça se disperse dans l'air, on ne peut pas le voir à l'œil nu.
De la poudre.
Alors que les graines poilues des peupliers, on le voit très très bien, on sait très bien le distinguer.
On peut le voir sur les pattes des abeilles, le pollen.
À la condition qu'elles en aient accumulé beaucoup. Mais le pollen volatile, on ne sait pas le voir. Le pollen du boulot qu'on respire et dont on parlait tout à l'heure qui cause des allergies, on ne le voit pas. C'est très très fin. C'est
d'ailleurs pour ça qu'on l'absorbe dans les poumons.
Oui, on le respire comme des petites poussières très fines. Alors que les pollens que ramassent les abeilles, ce sont déjà des pollens plus collants, plus gros. Ce sont des pollens d'ailleurs qui sont pas faits pour être dispersés dans l'air, qui sont moins volatiles et qui sont faits pour être ramassés par les insectes.
Voilà. Sauf qu'il y a certaines espèces d'abeilles qui sont spécifiques au pollen de sol, donc qui est vraiment tout petit. Oui. Et quand ils butinent, on voit quand même les
traces. Attention, j'ai parlé de graines de sol, pas de pollen de sol.
D'accord.
Le pollen de sol est ramassé par les abeilles aussi.
Bon, est-ce que la réponse est complète là, non
pour... Donc ce qu'on voit à l'œil nu, ce qui ressemble à du coton, c'est jamais du pollen, ce sont des graines. Des graines avec les poils qui les entourent et qui servent donc à les disperser par le vent.
Et qui donnent cet aspect watt.
Voilà. Hein,
d'accord.
Et pourtant, apparemment, ces graines ne sont jamais fertiles.
Si, quelquefois elles sont fertiles. Alors, ça dépend de quel croisement de peupliers elles sont issues, mais elles peuvent. Si ce sont des peupliers locaux, par exemple, si ce sont des peupliers noirs locaux, ou bien des croisements dont, si on peut parler en génétique, de pourcentage plus important de peupliers noirs, elles peuvent très bien être fertiles. Et il arrive qu'on trouve des semis de peupliers, des peupliers qui repoussent par exemple au bord des points d'eau, qui sont issus de semis et qui sont arrivés là à cause de graines poilues comme ça, qui sont arrivées par le vent, quoi.
Et donc, si moi, par exemple, mon peuplier ne donne pas de graines, c'est parce qu'il est tout seul, il n'est pas dit.
Non, c'est parce que c'est un mâle.
C'est un mâle.
Simplement, oui. Parce qu'il n'a pas besoin d'être à proximité d'un peuplier. Enfin, un peuplier femelle peut produire des graines sans être à proximité d'un peuplier mâle, parce que là aussi, le pollen est dispersé par le vent. Et même si un peuplier mâle à 500 mètres ou à 1 km, ça suffit pour polliniser ton peuplier femelle.
Donc, s'il n'y a pas de graines, c'est que c'est un mâle.
Oui.
Parce que j'en ai jamais vu.
Et dans ce cas, très très tôt en saison, avant même que les feuilles poussent, généralement il y a des petits chatons rouges.
Ouais,
qui sont donc
ouais.
Des chatons mâles qui dispersent du pollen. Donc il s'appuie sur le vent pour disperser son pollen et aller féconder d'autres peupliers et madame plus loin.
Ouais, bah apparemment il n'y a pas de madame dans le coin.
Bon, donc du coup il n'y a pas cet aspect de graines cotonneuses.
Non. Merci.
Voilà.
Donc, j'espère que l'auditeur sera satisfait. Je vois sur notre plan de préparation, on allait la différence bois tendre, bois dur.
Alors on allait parler aussi de différentes catégories qu'on fait dans les arbres. Mais j'ai oublié de préciser tout à l'heure par rapport à la croissance de l'arbre. Je pense que c'est quand même un point important. Et j'y ai pensé quand Michel, tu as abordé le séquoia avec la voiture qui passe en dessous.
Oui.
Tout à l'heure, on expliquait que la sève circule dans les vaisseaux du bois, donc à l'intérieur de l'arbre. Mais généralement, les parties les plus conductrices sont celles qui sont situées à l'extérieur. Et comme on l'a dit tout à l'heure également, la croissance se fait toujours par les nouvelles cernes se fabriquent à l'extérieur de l'arbre. Mmh. C'est-à-dire que l'intérieur...
Ce qu'on appelle l'aubier.
Alors l'aubier, c'est l'extérieur. C'est la partie la plus jeune du bois.
C'est ça.
L'intérieur, alors dans certains cas même, l'intérieur meurt. Donc les vaisseaux qui sont à l'intérieur de l'arbre...
Le centre.
Qu'on appelle donc généralement cœur de l'arbre, mais qui n'est pas un cœur au sens où on l'entend avec une pompe, etc. Mmh.
C'est pas le centre, c'est ça.
C'est le cœur. C'est le cœur au sens du centre. Voilà. Les vaisseaux se remplissent de lignine et deviennent inactifs. C'est-à-dire que... Ils ont toujours l'utilité de la rigidité de l'arbre, ça maintient l'arbre, mais ça n'a plus d'effet conducteur. C'est-à-dire que un arbre peut être creux, à partir du moment où il y a suffisamment de parties externes qui est vivante, il peut continuer à survivre, même à bien vivre, pendant de nombreuses années. C'est le cas par exemple des arbres têtards, voilà, qui continuent à produire des bois, même au fur et à mesure qu'on les coupe, l'intérieur pourrit, mais il reste suffisamment de bois vivant autour, qui continue à s'élargir, et qui continue à faire vivre parfaitement l'arbre.
Nos fameux sols têtards.
Voilà. Mm. Et le séquoia qui est creux, il peut très bien vivre à partir du moment où il y a suffisamment de surface, à partir du moment, bien sûr, où il est assez solide pour tenir debout, parce que si on enlève un trop grand trou, bien sûr, il devient fragile, mais il continue à vivre dans la mesure où il y a suffisamment de surface qui contiennent des vaisseaux et qui continuent d'alimenter tout le haut pied de l'arbre. Donc ça, c'était la parenthèse pour revenir en arrière.
Et juste aussi, c'est pour ça aussi que si on abîme l'écorce d'un arbre ou qu'on lui retire,
Alors par contre, sous l'écorce, oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas évoqué ça suffisamment tout
c'est
à l'heure.
Très dangereux.
Sous l'écorce, il y a d'autres vaisseaux qui font l'effet inverse. C'est-à-dire que sous l'écorce, il y a une petite partie, un organe qui s'appelle le phloème et qui est constitué de vaisseaux qui descendent. C'est-à-dire que toute l'eau et les sels minéraux montent par les canaux du centre, on pourrait dire, et redescendent une fois avoir été transformés dans les feuilles. Il y a beaucoup moins d'eau, hein, puisque l'arbre a évaporé de l'eau, il a transpiré de l'eau et rejeté de l'oxygène. Mais il transporte après de la sève beaucoup plus concentrée,
la sève élaborée,
qui contient de l'eau et des matières organiques, c'est-à-dire des sucres et des dérivés de sucre. Donc ça, c'est beaucoup plus riche, c'est plus concentré, c'est plus sucré. Et ça circule dans des vaisseaux qui sont sous l'écorce. C'est-à-dire que si on enlève l'écorce, ces vaisseaux sont mis à l'air, meurent, et la circulation ne se fait plus dans l'autre sens, ce qui fait que les racines ne sont plus alimentées, et l'arbre finit par mourir. Mmh. Si on enlève l'écorce tout le tour d'un arbre, les racines ne sont plus alimentées, l'arbre meurt, enfin, les racines s'asphyxient, l'arbre meurt.
C'est aussi comme ça qu'on met si on met un lien sur l'arbre, il va se sentir pas bien, quoi.
Pardon?
Si on en sert un lien autour d'un arbre,
alors,
si on oublie de retirer le tuteur et toute la structure autour.
Alors s'il est trop serré de façon régulière, bon, on peut aussi couper la circulation et étrangler l'arbre et qu'il meurt. Mais ce qui se produit généralement, c'est que comme il grossit par l'extérieur, il produit des tissus qui arrivent parfois. À entourer le fil de fer et reconstruit du bois autour et il continue l'alimentation, à condition que ça ne se fait pas sur toute la périphérie en même temps, parce que là, il est étranglé. Enfin, on parle d'étranglement.
C'est comme ça qu'un arbre peut avaler un fusil aussi posé à son pied pendant des années.
Bien sûr, on va pas conseiller de le faire, mais on peut planter des clous, on peut planter presque n'importe quel objet dans un arbre et en grossissant, il finit par produire du bois autour et encercler l'objet qu'on a mis. Quelquefois, c'est spectaculaire. On voit des panneaux qui ont été fixés aux arbres. Ils sont entourés par l'eau.
En forêt, souvent.
On ferme cette parenthèse.
Voilà. On est toujours dans la vie. Hein. Moi, je suis émerveillé, là.
Pour revenir donc aux catégories d'arbres, on peut séparer en plusieurs catégories selon où on se place. Du point de vue botanique, généralement, on les classe en deux catégories principales. Sans trop rentrer dans le détail, sans revenir aux palmiers, aux bambous et tout ça, qui sont des cas particuliers, généralement, du point de vue de la sylviculture, c'est-à-dire de la culture en forêt, des arbres de forêt, on les classe souvent en feuillus, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, donc ce sont des arbres à feuilles plates ou à feuilles larges, et des résineux. Le terme résineux, c'est un terme employé par les forestiers, parce qu'il est un peu impropre aussi. On devrait dire plutôt les conifères, qui sont presque tous résineux, mais pas tous. Par exemple, l'if n'est pas résineux.
Mmh. C'est vrai.
Et les conifères et les arbres à fleurs. Enfin, les arbres à fleurs, tout à l'heure on en a parlé aussi, hein, des bouleaux par exemple. Les bouleaux, ça
l'if n'est pas résineux, d'accord, mais conifères, c'est pas parce qu'ils forment des fruits en forme de cône.
Oui, et pourtant.
C'est pas le cas de l'if non
plus.
Pas
l'if, ouais.
Et pourtant, on le classe dans les conifères parce que.
Ouais, ouais, je sais bien.
Parce qu'il y a des aiguilles.
Bah, c'est pas vraiment des aiguilles non plus sur l'if.
Là, ça serait compliqué. C'est un conifère parce qu'il a. Il a
feuille persistante non plus.
Non, non plus. Non, parce qu'il y a des conifères à feuilles caduques aussi. Hein, comme le mélèze, par exemple. Le mélèze
bon, allez, on s'enfonce pas trop.
Il faudra faire une émission spéciale.
Voilà. Peut-être
que ça nous fait conifères.
On peut les classer. Ouais, et assimiler.
Donc, conifères et feuilles.
Conifères et arbres à fleurs.
Et arbres à fleurs.
Alors, les conifères, dans le sens botanique, ne produisent pas de fleurs. Donc, qui dit pas de fleurs, dit pas de fruits, mais ils produisent des graines. Donc, des graines sont des organes de reproduction issus d'un mode sexué, c'est-à-dire qu'il y a une pollinisation d'abord, hein, il y a du pollen, il y a des organes mâles, des organes femelles, généralement séparés sur les conifères, et ils produisent des graines, généralement dans des cônes, donc les graines sont séparées par des écailles, mais l'if, c'est pas, au sens où on l'entend, c'est pas un cône, hein, mais c'est une graine sans fruits, entourée par une narine charnue, qui normalement, au départ, chez ses ancêtres, c'était une écaille. Enfin bon. Alors. On peut donc, en dehors de la classification botanique, on peut les caractériser par leur usage. Des arbres à bois dur, des arbres à bois tendre, des arbres dont on utilise le bois comme bois d'œuvre, comme bois de mobilier, comme bois de charpente, etc. Ou alors des arbres qu'on cultive simplement pour les fruits, hein, les arbres fruitiers tout simplement.
À bois dur, à bois tendre, ça fait référence à l'homme qui.
Oui, oui, c'est l'usage qu'on en fait.
Ouais, voilà.
Enfin, les fruitiers, tu peux faire des manches de couteau, des.
Alors, dans les bois durs. Généralement, les arbres fruitiers qui deviennent assez gros pour produire du bois, généralement produisent du bois, entre guillemets, de valeur, parce que ça a un beau dessin. Ça,
Les merisiers, alors.
Oui, des meubles en merisier, en noyer, en poirier, etc. Poirier, ouais. À partir du moment où le diamètre est suffisant pour en faire des planches, et, ou alors de la.
La marqueterie
ou des choses comme ça. Ouais. On va peut-être pas trop s'étendre sur les catégories.
Sur les planches.
Bah, ça, oui, du moins qu'on reste en Flandre. Alors, peut-être un peu en parler. Ouais. Ouais.
Alors pour poursuivre avec les catégories, mais là, on va faire une distinction plus géographique. Des arbres d'origine locale. Alors là encore.
Nous y voilà.
Ben voilà.
Quand même. Depuis. Qu'on pourrait aussi catégoriser en différentes parties, des arbres d'essence locale qui sont originaires de l'Europe en général ou de la France ou de la région et qu'on trouve donc chez nous, qu'on va donc qualifier d'espèces indigènes, c'est-à-dire qu'on trouve naturellement ici, mais pas seulement ici. Si on les trouvait ici et seulement ici, on dirait qu'elles sont endémiques. Beaucoup de qualificatifs ce soir, alors il faudra prendre des notes parce que. Si c'est une espèce indigène, c'est-à-dire qu'on trouve ici, mais aussi dans les régions alentours, dans les régions environnantes, voire dans toute l'Europe, y compris dans les Flandres, on dit donc que c'est une espèce indigène. Mais si ce sont des individus de cette espèce qu'on prélève dans le territoire des Flandres, on dira que ce sont des individus autochtones. C'est-à-dire que. Ce sont des individus issus d'une espèce indigène, mais originaires de la région. Alors qu'on pourrait prendre des individus autochtones des Alpes, par exemple, de la même espèce, mais qui ne sont pas autochtones d'ici, mais qui sont quand même dans la même espèce indigène. Mmh. Voilà, c'est pour jouer sur les termes.
Des exemples. Bon.
De multiples exemples, par exemple, l'aubépine.
Oui.
On a des aubépines, l'aubépine monogyne, par exemple, l'aubépine à une graine. Qu'on trouve dans toute l'Europe de l'Ouest quasiment, sauf dans la très haute montagne et sauf dans des zones particulières comme les dunes ou des choses comme ça où on ne la trouve pas forcément, mais dans toutes les plaines de l'Europe de l'Ouest. Si on prend des graines d'aubépine des Flandres, on va donc prendre des graines sur des individus autochtones, de l'espèce qui est donc indigène sur l'Europe de l'Ouest. Si on les prend dans le Massif central, elles ne sont pas autochtones. Néanmoins, l'espèce est indigène aussi là-bas. Est-ce que c'est clair.
Ce qui pose très souvent du coup les problèmes de pollution génétique,
voilà.
Puisque le patrimoine, ça boit être la même espèce, c'est pas forcément le même patrimoine génétique, et rien ne nous assure que l'aubépine de Flandre
pourrait se croiser avec l'aubépine du Massif central.
Si, elle pourrait. Elle pourrait. Si c'est la même espèce, une même espèce, alors, le croisement est toujours possible.
Il y a peut-être un gros avantage de développement, comme chez les maladies. Animaux, c'est résistance aux maladies, voilà. Résistance au climat et adaptation. Et
C'est-à-dire que les nuances, par exemple, si c'est une région plus au sud, la nuance peut être quelques semaines plus précoces ou quelques semaines plus tardives dans la floraison, dans la fructification, etc. Donc, au sein d'une même espèce, le croisement est toujours possible. D'où, comme tu disais Barthes, d'où la possibilité de pollution génétique si on introduit des gènes d'une espèce, de spécimens issus d'une autre région, qui sont donc pas autochtones et qui amènent les gènes d'ailleurs. Bon, certains spécialistes, certains puristes estiment qu'il faut éviter de le faire, surtout si ce sont des espèces pas forcément menacées, mais qu'on voudrait garder, des variétés locales qu'on voudrait garder pures. Bon, c'est un vaste débat.
Oui, puis je pense aussi que ça reprend mieux quand c'est le prélèvement ne se fait pas trop loin.
Ça, c'est pas du tout évident. Non, la meilleure preuve, c'est que, bon, si on étend un petit peu, c'est qu'on peut même introduire des espèces. Là, je parle d'espèces, hein, pas d'individus. D'espèces qui viennent d'autres régions et qui s'implantent très très bien ici. Alors, dans la même espèce, il n'y a aucune raison. C'est pas du tout évident. Non. C'est pas si simple que ça.
Par contre, le peuplier d'Italie, est-ce qu'il résiste mieux au climat ou pas?
Alors, le peuplier d'Italie,
c'est
une variété sélectionnée par l'homme qui appartient à une espèce indigène, qui est le peuplier noir, qui n'a pas cette forme en fuseau, mais qui est très commun dans toute l'Europe, qui pousse dans les vallées un peu humides, voire un peu marécageuses, qui poussait naturellement le long des cours d'eau, qui est présent dans toute l'Europe. Et il y a dans cette population, des individus fastigiés, c'est-à-dire qui ont cette forme de fuseau, hein, le peuplier d'Italie, où on voit ce que c'est, hein, c'est un peuplier qui a une forme en colonne, quoi.
Oui.
Qui se croise donc avec le peuplier des noirs type, qui a une forme un peu plus évasée, un peu plus large. Mais on le multiplie très très bien par bouture, ce qui fait qu'à partir du moment où on le multiplie par bouture, on obtient des clones, donc c'est toujours le même individu. On a autant de peupliers que de boutures, parce qu'on prend des petits bâtons, quoi, hein, on en a parlé tout à l'heure, on prend des petits bâtons, on les plante, on a un peuplier, quoi. On a des peupliers, donc le peuplier d'Italie se multiplie comme ça. Donc cette variété, elle est multipliée indéfiniment par procédé non sexué.
Mais le fait qu'on l'appelle peuplier d'Italie, est-ce que ça signifie...
C'est parce qu'il a été sélectionné dans les régions méridionales, peut-être par les Italiens, mais c'est pas sûr du tout, mais plutôt dans la partie méridionale de l'Europe, et qu'il a été après répandu.
Mais sa durée de vie, en fait, par ici, elle est moyenne, quoi. C'est pas...
Des peupliers, en général, ça vit en moyenne autour d'un siècle, 120 ans, 150 ans.
Moi, je sais que j'ai dû les couper au bout de 30 ans.
Après, on peut prolonger la durée de vie naturelle des peupliers, par exemple, chez les peupliers qui ont été conduits en têtard comme les sols, le fait de les avoir taillés et d'avoir donc régénéré souvent les branches, on a pu prolonger artificiellement leur durée de vie. Parce que sinon, un peuplier noir sans intervention de l'homme, c'est en moyenne 120 ans, voire 150 ans, mais il finit par avoir des branches. Et comme c'est un bois relativement tendre,
dangereux.
Il finit par être creux, et puis l'arbre il produit du bois mort, parce qu'il se gâte par l'intérieur, il devient cassant, et puis il s'effondre.
Il peut devenir dangereux quand même.
Ah oui, il devient dangereux. Donc,
le fait qu'on en voit un peu partout, moins maintenant, mais... Radio Alain Spiegel, la voix de la Flandre, et bien là, nous allons écouter une autre voix française.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois, avoir peur Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je me languis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Dit « Quand reviendras-tu ?» de Barbara, 1966. Radio Lenspiegel 91.8 FM, mais aussi sur internet lenspiegel.be.cx. Vous avez le plaisir d'écouter une émission animée, préparée et présentée par Outland Nature Association indépendante. Ce soir, le thème, la vie des arbres. On est vraiment dans la vie parce que depuis le début, les amis ici autour de la table, notamment Vincent, nous font un discours intéressant, enfin c'est pas un discours, hein, c'est un exposé scientifique avec ses termes, mais très bien vulgarisé. On en était à... Bon, on a bien vu sur la vie de l'arbre, les différentes espèces. Alors, à ce qui concerne le paysage, notre ami Thierry va nous exposer le paysage en Flandre.
Alors, on va parler d'abord au niveau régional. Quand on parle arbre, on a tout de suite en tête la notion de forêt. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans la région Nord-Pas-de-Calais, à l'époque romaine, donc il y a à peu près 2000 ans, on estime l'étendue de la forêt à environ 600 000 hectares. Alors, vous allez me dire, au niveau régional, le territoire est très différent entre les plaines flamandes et la Vénois, mais globalement, on estime à 600 000 hectares. Actuellement, on estime, enfin là c'est plus précis qu'une estimation, on a un peu plus de 105 000 hectares. Donc vous voyez qu'en 2000 ans, on divise le chiffre par 6. Mais il faut savoir que l'étendue des forêts était à peu près constante jusqu'au XIe siècle, et c'est à partir du XIe siècle qu'on a commencé les grands défrichements, parce que la population locale a fortement progressé, ce qui a fait qu'on a eu besoin des terres libres pour l'agriculture et l'élevage. Donc c'est à cette époque-là qu'on a commencé à déboiser de façon quasiment industrielle pour pouvoir nourrir la population. Donc on est passé de 600 000 à 105 000, mais avec un creux à peu près au XVIIIe siècle. Là, on est descendu, on estime, à environ 60 000 hectares. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, 19e, ça a commencé à progresser. Au niveau national, les pratiques culturales ont été modifiés, donc il y a des secteurs qui ont été laissés à l'abandon ou reboisés volontairement. C'est ce qui se passe actuellement. On y viendra si on a encore le temps ce soir sur l'état actuel du boisement régional. Et ensuite, ce qu'on peut dire au niveau local, comme Michel vous l'a rappelé plusieurs fois, l'émission est présentée par Outland Nature. Outland, justement, ça tombe bien,
ça veut dire pays du bois. Mais pays du bois, pas dans le sens pays boisé d'une manière uniforme, comme par exemple on pourrait penser à la forêt de Mormal dans l'Avesnois. C'est pays du bois parce qu'il y avait des arbres partout, mais des arbres pas forcément sous forme de bois ou de forêt, mais surtout sous forme d'alignement d'arbres, de bosquets, autour des pâtures, il y avait pas seulement de la haie, mais une ou voire plusieurs rangées d'arbres. C'est pour cette raison-là qu'on a nommé la région Outland. Il y a les cartes, les célèbres cartes de Cassini qui nous montrent qu'il y a des petits, qu'il y avait, elle date du XVIIIe siècle, elle nous montre qu'il y avait énormément de petits bosquets, des rangées d'arbres un peu partout. C'est surtout dans ce sens-là.
Donc il y a peut-être moins de bois qu'il y a 200-300 ans, mais globalement il doit y avoir quand même, enfin il y a plus de bois aujourd'hui qu'il y a 200-300 ans, mais il y a probablement moins d'arbres. Parce que je suppose que la superposition de tous les alignements de haies, c'est quelque chose qui est difficile à penser, à imaginer.
Ben là, je parle plus spécifiquement au niveau Outland, donc la région Flandre. Bon, au niveau régional, il y a certainement plus de bois, mais au niveau local, je suis pas sûr que la surface forestière a augmenté. Parce que bon, ces alignements d'arbres, bon, déjà il y a beaucoup moins de pâtures, il y a, je pense, beaucoup moins d'arbres autour des pâtures.
Mais le problème, c'est que les chiffres que tu as, enfin le problème, les chiffres que tu as donné tout à l'heure ne concernent que les surfaces boisées.
Voilà, oui, c'est pour ça que j'ai précisé, c'est au niveau régional des surfaces boisées.
Voilà. Mais c'est important du coup, si vous nous entendez, de savoir que effectivement, si on pourrait se dire, bah c'est bon, l'état de la forêt se remet en place. C'est vrai, on a peut-être plus de forêts, plus de bois qu'il y a 200-300 ans, mais d'un point de vue écologique, la disparition de ce qu'on appelle le bocage, c'est-à-dire l'alternance de prairies, de champs, entourés de haies, a quand même des graves répercussions sur la biodiversité. On y reviendra tout à l'heure.
Voilà, puis bon, il y a des analyses de pollen qui ont été faites qui datent de l'époque romaine et qui montrent que, d'après ce qu'on a retrouvé, qui avait un paysage à peu près identique à celui qu'on a aujourd'hui, au moins au 18e, 19e siècle, il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'on avait des prairies avec beaucoup d'arbres, mais pas de boisement dense comme on a dans d'autres secteurs de la région Nord-Pas-de-Calais.
Une prairie avec beaucoup d'arbres, je pense, j'ai un exemple en tête là. Hein, quand vous quittez Berg et Faubourg de Cassel, vous allez vers Wormhout, sur votre gauche, vous avez une immense... zone prairie avec deux rangées d'arbres et une très belle propriété ferme. Avant de, comment ça s'appelle ce coin là, on arrivait de
tourner à Sox là,
ouais,
la zone de l'Hermitage
au Clapouc, ouais.
Voilà.
Je suppose que cet exemple-là se reproduisait il y a 200-300 ans.
Si je peux intervenir là, c'est un mauvais exemple parce que ce ne sont pas des arbres locaux.
Oui, ce sont pas
ce sont des peupliers qui n'existaient pas dans la nature. C'est un croisement de peupliers américains.
Je vais parler sur le principe du comptage d'arbres.
Il faut juste donner aussi une idée, c'est que pour chauffer, il valait mieux avoir des arbres au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. On n'a pas besoin d'arbres autour de sa maison. Moi, j'en ai autour de la mienne, mais c'est pas avec ceux-là que je me chauffe. Alors que je pourrais. Et il y a quand même un gros changement de paysage parce qu'on va retirer au moins tout ce qui est avec un arbre de temps en temps. C'est aussi pour ça que l'eau ruisselle et qu'elle n'est pas pompée pour faire de la matière organique.
Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des utilités des arbres, mais à une époque, c'était l'énergie venait de là. On n'avait pas encore découvert le charbon, toutes les activités humaines étaient réalisées grâce aux arbres, que ce soit pour le chauffage, pour la construction, tout était...
La cuisine, le pain, etc. Voilà.
Ouais, le charbon, c'est 11e, 12e pour les premières mines dans le Nord-Pas-de-Calais, donc...
Si tout ça...
Ouais, les premières mines étaient plus
premières,
du côté
ouais,
du... Mais il y en avait pas, ils servaient surtout pour faire des forges et des choses comme ça, hein, pas pour... tout le monde n'avait pas du charbon chez soi.
Il y a à peu près une semaine, avec Christophe Delbecq du Pays des Moulins de Flandre, Outland Nature a proposé une conférence justement sur la place de l'arbre en Flandre. Et c'était marrant de voir que finalement, là où on a des arbres aujourd'hui, c'était des espèces où il y a un siècle et demi, donc on s'était basé à partir de vieilles cartes et de vieilles photographies, c'était les zones qui étaient finalement les zones les plus nues. Et vice-versa, les zones qui sont les plus nues aujourd'hui étaient peut-être les zones qui étaient les plus boisées autrefois. Alors, exception peut-être pour la Flandre maritime, donc la zone de Polder où l'arbre a toujours été un petit peu plus rare qu'avant. Mais même quand on regarde sur les vieilles photos autour de Ouarem, par exemple, on avait énormément d'arbres. Le plus prégnant peut-être c'est dans les dunes, où on remarque encore jusqu'au début des années 50, donc 1950, il n'y avait quasiment aucun arbre, aucun arbuste, même dans les dunes, alors qu'aujourd'hui, quand on parle de forêt, excepté les monts de Flandre, la plupart des gens pensent directement aux dunes, et notamment de leurs dunes boisées. Et on a remarqué que les espaces dunaires, donc dunes fossiles, dunes marchandes, dunes du perroquet, dunes de buffle, et côté du Pas-de-Calais aussi, se sont vraiment boisées à la fin des années 70. Et il y a plusieurs remarques à ça. La première aurait été le fait qu'autrefois il y avait énormément de sable qui venait de la mer, qui se déposait sur la plage, qui formait des très très grandes dunes blanches, donc les dunes qui sont colonisées par l'œil, les premières dunes face à la mer. Et dès qu'il y avait les vents dominants du nord-ouest, ce sable pouvait être mobilisé, rentrer à l'intérieur des dunes et recouvrer les jeunes arbustes ou les jeunes arbres. Et eux forcément n'avaient aucune chance de survivre. Il y a aussi à la fin des années 70 une stabilisation des dunes qui est réalisée par les hommes, notamment par la plantation de peupliers, notamment les peupliers baumiers qui sont des peupliers qui résistent assez bien justement à l'ensablement. Et surtout, on pense la présence d'une agriculture de plus en plus intensive dans la zone de Polder, voire à des kilomètres à la ronde, qui font qu'il y avait énormément d'intrants chimiques qui sont arrivés jusqu'aux dunes et qui ont favorisé la pousse des plantes. Mais quand on regarde les vieilles photos du début du siècle, voire jusqu'aux années 40-50, les dunes blanches étaient très très hautes et à l'arrière on avait vraiment qu'une énorme étendue de dunes qui était très très plate, avec vraiment une alternance de dunes grises, dunes humides, donc ce qu'on appelle les pannes, deux milieux qui ont aujourd'hui quasiment disparu.
Ouais, et puis il y avait une urbanisation beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui, donc il y avait une plus grande dynamique au niveau du déplacement des dunes.
Il y avait beaucoup plus d'habitations, par contre, dans les dunes en
elles-mêmes. Voilà, des petites habitations.
Oui, isolées.
Qui ne pouvaient pas faire barrage au déplacement des dunes.
Voilà. Et je pense que le barrage, tout en air, c'est la voie ferrée, la route. Hein, qu'on des sables s'il y a un problème.
Là, c'était vraiment sur les espaces dunaires. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire que c'est dû ou à la présence, enfin, du mitage des espaces dunaires. On ne peut pas dire que ce soit à cause des intrants. On ne peut pas dire que ce soit à cause des plantations. On ne peut pas dire qu'on est rentré dans une phase de déficit sédimentaire. Je pense que c'est vraiment la conjoncture de ces quatre paramètres qui ont fait que les dunes se sont boisées très, très vite. Et un autre exemple qui est encore peut-être plus parlant pour vous, c'est le mont Déricolé. Oui. Aujourd'hui, on parle de monts, on parle de forêts déricolées, enfin de bois déricolés. Faut savoir que quasiment tous les monts de Flandre, jusqu'au début des années 30-40, étaient des landes sèches. Donc, landes sèches, ça veut dire vraiment des milieux très très ouverts, des terres généralement incultes pour l'agriculture, mais on y mettait des animaux, notamment des chevaux, des moutons, tout ça. Et on avait vraiment une végétation de landes, c'est-à-dire de la calune, c'est-à-dire de la bruyère. Il y avait déjà des botanistes au début du XXe siècle qui allaient observer sur ces monts et il y avait des espèces qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Et le mont Déricolé aurait vraiment été boisé juste après-guerre, donc fin des années 40, début des années 50, et le paysage a évidemment totalement été modifié. Et juste, quand on regarde les... Vas-y.
Juste, ma mamie qui habitait à Hardifort disait que les Allemands faisaient du ski sur le mont, mais elle me parlait de son petit bois, il existe toujours et je passe toujours en train de me dire faut pas qu'il parte, c'est juste le petit bosquet qui est en contrebas d'Hardifort et apparemment c'était existant il y a plus de 100 ans vu qu'elle allait jouer dans des petits arbres, enfin dans des arbres à cet endroit là.
Alors quand on regarde les photos, effectivement le haut du récollé était totalement nu, donc il n'y avait vraiment pas un arbre, mais par contre la vallée, notamment tout le bassin versant de l'Isère, toute la Flandre intérieure, là était vraiment une zone bocagère, avec des arbres très très grands, des arbres de plus de 30 mètres de haut, ce qu'on ne retrouve plus du tout, apparemment énormément d'ormes, on avait vraiment des haies, ouais, un petit peu le paysage que tu décris au niveau du Klapouk, alors avec d'autres espèces, des espèces pour le coup vraiment autochtones et indigènes. Mais c'était vraiment un milieu de bocage avec des espèces, par exemple, comme l'écureuil qui était présent dans quasiment tous les villages de Flandre intérieure. Aujourd'hui, l'écureuil a totalement disparu quasiment.
Je peux peut-être vous lire quelques lignes du préfet Dieudonné de 1804 qui avait fait des comptages et des descriptions d'un peu tous les éléments locaux. Alors il dit en 1804, il ne peut être de spectacle plus délicieux que celui qu'offre le pays, étudié depuis la sommité du Mont Cassel. Aussi loin que la vue peut s'étendre, ce n'est qu'un immense jardin planté de millions d'arbres forestiers et fruitiers. Chaque pièce de terre, chaque pâture est entourée d'une haie vive, formée d'épines, entremêlée à distance très rapprochée d'arbres montants tels que chênes, frênes, ormes, charmilles, bois blancs, bouleaux, peupliers ou de sol tétard. Les chemins vicinaux et communaux sont ornés de la même bordure. Les arbres fruitiers n'enrichissent pas seulement les clôtures, les prairies et les pâtures sont couvertes de superbes allées d'ormes dont le produit paie le fond de la terre une fois chaque 50 ans. On ne regarde point les clôtures, les plantations autour des propriétés comme faisant un tort réel à l'agriculture et effectivement, on fait à leur ombre des récoltes les plus abondantes.
Oui. Ça laisse rêveur.
Et juste une petite chose aussi qui est de la pratique toute bête. Cet hiver, grâce à la neige, on s'est aperçu de l'utilité des arbres le long de la route. S'il n'y a pas d'arbres, on sait plus où est la route, on sait plus où est le fossé et on se perd. Alors que s'il y a des arbres, il y avait juste à les suivre pour pas se perdre. Mmh.
Puis ça limite les congères qui sont formées par le vent. Les haies coupent le vent, donc la formation des congères.
Et après, au niveau des arbres, ils étaient utilisés aussi beaucoup dans la charpente, hein, ce qu'on oublie. Moi, chez moi, ma maison est en chêne, donc on n'est pas obligé de la recouvrir de torchis. Par contre, l'intérieur est en normes. Et quand on est passé sur des maisons en normes parce qu'il n'y avait plus de chêne, dans l'endroit où il n'y a plus de chêne, et ben, on est obligé de passer à l'orme et on est obligé de le recouvrir de torchis parce que l'orme ne résiste pas bien. Au niveau du climat.
L'orme a été abondamment utilisé en construction dans les Flandres.
Moi, la charpente intérieure est enfin, la charpente sous le chaume est en orme, mais tout le reste de la maison est en chêne.
Mmh. Et donc, apparemment, même des bois qu'on connaît aujourd'hui, comme le bois de Steinvoord ou le bois de Saint-Acaire, sont des bois qui sont apparemment très très récents, et là aussi, encore jusqu'au début des années 30-40, c'était des zones où le sable était plutôt affleurant à même le sol, alors qu'on est en plein pays argileux. C'était vraiment des landes, enfin des paysages de landes, donc des paysages très très ouverts avec une végétation, on va dire, semi-arbustive, donc de 20 à 80 cm de haut, pas plus. Ce qui est marrant, c'est qu'on a encore des données, enfin, il y a eu un nouvel atlas des amphibiens reptiles qui est sorti au niveau national et une donnée de vipère-péliade au niveau du bois de Steinvoord, enfin, au niveau de Steinvoord. Donc la donnée n'a pas encore été confirmée, mais on ne sait pas du tout, c'est pas impossible. Alors, je pense que c'est une erreur d'impression. Mais il y avait probablement des espèces qui étaient présentes auparavant qu'on ne retrouvera plus jamais chez nous. Et si vous baladez au Mont Noir, ils ont réouvert une zone de bois. Ils ont retrouvé une zone de lande qui existait avant. Donc, il y a quand même encore des plantes qui sont présentes dans le sol et qui peuvent encore ressurgir. Mais ce sont malheureusement peut-être alors c'est des plantes intéressantes, mais les plantes vraiment les plus rares ont disparu. Je pense par exemple à des plantes carnivores qui étaient présentes avant sur le haut des Récollets ou en haut de Cassel et qu'on ne reverra malheureusement plus jamais.
C'est tout pour l'évolution, Thierry ?
Ben oui, on en est de nos jours. On en parlera peut-être tout à l'heure sur... ce qu'on peut faire pour... Oui, Vincent ?
Oui, peut-être pour rebondir sur ce qu'on perçoit du paysage. Mmh. Quand on regarde le paysage actuel des Flandres, sans parler des monts, hein, mais en plaine, par exemple, dans les Flandres maritimes et un petit peu les Flandres intérieures, ce qu'on constate, c'est que l'arbre dominant maintenant, c'est le peuplier, qui est d'introduction assez récente et qui n'existait pas dans le paysage naturel.
La croissance rapide, donc... Ouais.
Donc c'est un arbre artificiel finalement, parce que c'est les peupliers qu'on cultive et qui ont été abondamment installés, pas seulement dans les Flandres d'ailleurs, dans beaucoup de paysages de France.
Il y a dans tous les autour des écoles.
Oui, un peu partout, hein, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. C'est un ou plusieurs espèces de peupliers qui sont des hybrides entre des peupliers noirs dont on a parlé tout à l'heure également, qui lui est une espèce indigène, et des peupliers noirs américains d'espèces voisines, qui ont été croisés donc forcément postérieurement à la découverte de l'Amérique. Et les croisements entre ces espèces et ensuite entre leurs descendants a donné des arbres avec des qualités particulières. D'une part, la rapidité de leur croissance, et d'autre part, l'aspect rectiligne des troncs, ce qui permet d'en faire des planches ou bien d'autres usages industriels, des palettes, des cajots, des boîtes de camembert, j'en passe et d'autres, des allumettes, etc.
Il y a eu beaucoup de peupliers qui ont été plantés aussi après-guerre, ne serait-ce comme en dommage de guerre.
Quoi. Oui,
des
aussi.
Des arbres massacrés,
oui.
Ils ont planté du peuplier.
Bon, est-ce que ça veut dire qu'on ne plante plus autre chose que du peuplier ?
Et l'avantage, c'est que ça pousse très très vite et c'est facile.
Oui,
parce que,
en dehors de la croissance rapide.
Et puis la facilité de multiplication, puisqu'il suffit de planter des bâtons pour que ça donne des nouveaux arbres.
C'était le cas il y a 50-60 ans, mais je pense que maintenant, il y a un renouveau, les gens ont pris conscience que c'est pas génial.
Ça, non, c'est au niveau de l'individu, mais au niveau de la société civile, est-ce que...
Même, il y a... Au niveau des institutions régionales ou départementales, il y a un gros effort qui est fait pour remettre au goût du jour les essences plus nobles, je dirais, plus autochtones.
Et parfois plus résistantes au vent, hein, parce que c'est vrai que le peuplier, sans l'avoir coupé, il ne résiste pas bien aux tempêtes. Et quand on voit par exemple le bois de Coudekerque qui est fermé à chaque coup de vent parce qu'on risque d'avoir des chutes de peupliers.
Ouais, c'est une précaution administrative, hein, parce que je pense que d'une manière générale, les peupliers sont pas plus fragiles que des autres.
Dans certaines zones, ils vont tomber plus facilement quand même.
Après, bien sûr, ça dépend comment ils ont été plantés. S'ils sont très serrés, très fins, et voire grêles, parce qu'ils ont manque de place pour se développer. Mais il y a des peupliers de plein vent qui sont isolés en pleine campagne et qui tiennent très bien debout. Hein. Ils sont épais, costauds.
Les a assez utilisés pour protéger les stades dans les années 50-60.
Dans chaque collège où je travaille, ça poussait super vite. Ils sont en train de les abattre très rapidement parce qu'ils
sont pas droits.
Ils cassent. C'est des arbres cassants.
Mais de toute façon, tout arbre présente un risque au moment des tempêtes, hein, forcément, mais d'une manière générale. Après, comme aussi la plupart des arbres, il y a, au fur et à mesure que l'arbre se développe, il y a des morceaux il y a des parties des branches qui dessèchent. Celles qui sont les plus basses dessèchent parce qu'elles sont moins exposées à la lumière, au profit de celles qui sont supérieures. Et après, ces branches-là, bien sûr, deviennent cassantes et meurent, et risquent de tomber quand il y a du vent. Mais,
j'ai quand même rarement entendu qu'on avait planté des chênes hein, depuis quelque temps.
Oui, avant ça se faisait. Là je peux me référer à quelques légers souvenirs de. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais des endroits où il y avait eu des chênes plantés autour des pâtures. Et quelquefois ils ont été détruits à la guerre pour faire des pyromelles. On en avait parlé en préparant l'émission. Ils ont été détruits malheureusement alors qu'ils étaient en. Ils auraient pu avoir un usage beaucoup plus noble,
ça,
forcément.
Ça fait déjà il y a 70 ans, mais depuis
non, il n'y a pas tellement de chaînes.
Non, et puis il ne faut pas oublier aussi que quand tu avais des chantiers navals au Moyen-Âge, ils utilisaient le chêne, pas le peuplier, pour faire des bateaux. Hein.
Donc, bien sûr. Mais
Quand on était sur des zones portuaires, les chantiers utilisaient les arbres.
Il n'y avait presque pas de peuplier à l'époque, de toute façon. Hein. Ça a pris une expansion beaucoup plus tardive.
Radio Alan Spiegel, on est toujours... Oui, Vincent. Une intervention.
Peut-être juste encore un détail sur la composition des forêts sans intervention de l'homme. Sur la partie Flandre maritime et peut-être encore une petite partie de la Flandre intérieure, la colonisation naturelle du sol par les arbres se fait d'abord par des arbres qu'on appelle pionniers puisque ce sont les premiers à s'installer et ce sont donc des arbres qui arrivent avec le vent. Donc ce sont généralement d'abord des saules, éventuellement le peuplier noir local, éventuellement des bouleaux, et puis les autres arrivent après. L'aulne aussi, qui arrive aussi par le vent et qui est une espèce quand même...
Il y a le peuplier tremble aussi.
Le peuplier tremble aussi. Pareil, hein, qui arrive aussi par le vent. Mmh. Ah, c'est ce qu'on
puis
a dit tout à l'heure.
Qu'on a, enfin, je pense que ça a un rôle aussi, comme on a un sol hydromorphe, n'en déplaise à certains... c'est les arbres qu'on.
Oui. Ce sont les premiers arbres à s'installer. Après,
définition du mot hydromorphe.
Gorgée d'eau sur les 40-50 cm.
50 premiers centimètres.
Voilà. Étant donné qu'on a un relief quasiment nul et un sous-sol argileux très rapidement. Quoi. Donc il est gorgé d'eau très rapidement. Donc il y a que des arbres qui supportent bien l'humidité du sol qui peuvent croître facilement.
Après, une fois que le sol SOL a été constitué, c'est-à-dire que quand les premiers arbres sont installés, ensuite quand le sol devient
mûr,
d'autres espèces d'arbres peuvent s'installer, comme le chêne pédonculé, le frêne, l'orme autrefois. L'orme, si on a le temps, on en parlera encore un petit peu, mais d'autres arbres viennent après. Donc il y a toute une série, un cortège, entre guillemets, un cortège d'arbres pionniers qui s'installent d'abord. Ils préparent le terrain et après d'autres arbres viennent s'installer.
Si on a le temps, ben on verra après l'écoute de Angus et Julia Stone.
I'm
Angus et Julia Stone, je crois que sont frères et sœurs australiens, dans un album Down the Way de 2010, et le titre qui s'appelle For You. Alors justement, For You, ça peut être le vous au pluriel. Vous étiez dédicacé. Radio Alan Spiegel, alors, on était dans le cri du Kevit sur le thème des arbres, les arbres en Flandre, mais d'une façon générale, on a évoqué leur vie. On va peut-être aussi évoquer, pour favoriser leur vie, comment l'homme peut intervenir, au moins en ce qui concerne la taille des arbres. Est-ce que ça favorise leur vie ou bien...
Ça favorise pas forcément leur vie.
Pas forcément, ça dépend comment on l'a fait.
Oui, ça permet de s'adapter, d'adapter les conditions de vie entre les hommes et les arbres, parce qu'il faut bien cohabiter, et puis quelquefois...
Ouais, c'est pas indispensable à la vie d'un arbre, la taille. S'il en a besoin, il le fait lui-même, comme disait Vincent, quand il n'y a pas suffisamment de lumière, que les branches basses ne sont plus exposées au soleil, elles dessèchent et elles tombent toutes seules, quoi. Mais bon, on peut intervenir également.
Donc il faut qu'il y ait un compromis entre l'homme.
Il faut qu'on dise d'emblée que... avant de planter un arbre, il faut d'abord réfléchir à la dimension qu'il doit prendre et ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on va en faire. Si on dispose d'un terrain beaucoup trop petit, il est inutile d'envisager de planter un arbre qui va devenir un géant. Autant planter un arbre qui appartient à une espèce...
Un arbuste.
Un arbuste ou un arbre de dimension réduite. Bon, il y a des cas particuliers. Bon, par exemple, on incite quelquefois, parce que ça fait partie du patrimoine et du paysage flamand, entre autres, à planter des saules têtards. Donc là, on sait d'avance, quand on les plante, que c'est des arbres qui vont avoir des dimensions quand même contenues, puisqu'on va les tailler et leur donner une forme relativement réduite.
Sachant, bon. Je pense que tout le monde le sait, mais un arbre têtard, c'est pas une variété d'arbre.
Non, c'est pas une variété d'arbre, c'est une façon,
de
conduire l'arbre. Bon, généralement ici ça se fait souvent sur des saules. On peut le faire aussi sur d'autres espèces d'arbres. Hein. Il existe des peupliers en tétard. Même quelquefois on voit des chênes, autrefois des ormes, des frênes.
Des noyers.
Des noyers.
Comment ?
En tétard ?
Il y en a un très beau sur le mont, qui est à proximité du lac Bleu, je crois que c'est le Mont Royal.
Oui, à côté du lac Bleu, c'est Mont-Royal. Sinon, tu as le bois du Ham de l'autre côté.
Je crois que c'est bois Royal. Un très très beau noyer taillé en tétard.
Alors ça, c'est vraiment une exception, parce que les noyers, d'une manière générale, n'aiment pas trop être taillés, mais...
Moi, j'ai taillé dans le jardin, comment c'est, un bois de Sophie, là.
Ah oui, un peu plus... cerisier de Sainte-Lucie.
Sainte-Lucie, oui.
Beaucoup d'espèces d'arbres supportent d'être taillées, ce qui ne veut pas dire qu'elles aiment ça, hein, mais...
Oui. Bon, j'aurais pas dû, alors...
Après, ça, tout dépend de la place dont il peut disposer. S'il y a suffisamment de place, on peut le laisser se développer, mais bon, quelquefois, on est...
On dit, les fruits à noyaux, on ne taille pas.
Normalement, oui, alors il faut tailler légèrement. Ben là, il s'agit d'un arbre à fruits à noyaux sauvage.
Oui.
Enfin, normalement, on l'utilise comme porte-greffe pour les cerisiers, mais là, il n'a jamais été greffé, apparemment. C'est... Donc, bon, il supporte d'être taillé. Bon, il y a d'autres formes possibles. Bon, quelquefois, par exemple, pour donner d'autres exemples d'usage qu'on peut observer quelquefois dans les villages, ce sont des arbres qui ont été conduits en espalier, éventuellement des arbres fruitiers, mais aussi quelquefois des tilleuls ou des platanes autour des villes, autour des places, autour des cimetières, qui ont des formes très très particulières, bon, en forme de candélabre. On aime ou on n'aime pas, hein. c'est un peu quand même...
Oui, c'est une vision purement humaine.
Et on plantait souvent des tilleuls à feuilles cordées, donc une espèce très spécifique autour des cimetières, notamment en amour à la Vierge Marie, parce que les feuilles cordées ressemblent à des cœurs. Et donc on avait très souvent l'église, le cimetière qui était autour, et le cimetière qui était délimité par l'extérieur, notamment le centre-village, par une haie de prunelier d'aubépine, généralement de 80 à 1 mètre de haut, 80 cm à 1 mètre, donc pas très haut, et on avait généralement la haie de tilleul, donc en espalier, dont les branches caractéristiques se rejoignent les unes aux autres.
Bon,
le temps de parler de la symbolique des arbres, mais il y aurait encore
ça sera
chose à dire.
L'objet d'un autre chapitre.
Avant tout, première précaution, savoir...
Alors, la première précaution, c'est de ne pas vouloir absolument planter un arbre qui va devenir grand dans un jardin trop petit, ou dans un terrain trop petit. C'est comme vouloir élever un crocodile dans une baignoire, en sachant que bientôt il va déborder de la baignoire. Donc. Alors ça vaut pour les arbres d'ornement aussi, bien sûr, hein, comme les saules pleureurs ou des cèdres ou des choses comme ça, des arbres d'ornement ou des arbres exotiques qu'on veut mettre dans des petits jardins parce que c'est joli quand c'est petit, mais en sachant que ça va devenir des choses monstrueuses dans le bon sens du terme, parce que enfin monstrueuses dans le sens même majestueuses, mais énormes et beaucoup, enfin disproportionnées par rapport à la place qu'on pourra leur offrir. Un cèdre taillé en boule, ça signifie rien du tout. Enfin, après, c'est une façon d'apprécier. Mais...
Un châtaignier non plus.
Ça. Un châtaignier non plus.
Oui, pourtant, quand on regarde un Dunkerque, il y en a pas mal de châtaigniers. On s'aperçoit qu'ils sont obligés de les tailler. Quoi, hein. C'est pas toujours une réussite, hein, je trouve.
Ouais, des marronniers peut-être.
Ou marronniers, oui. Comme ça, ouais.
Puis... Les arbres remarquables, d'une façon générale, sont généralement des arbres qu'on a laissé se développer librement dans un écrin approprié, dans un grand parc, dans un emplacement. Ils sont majestueux, ils sont beaucoup plus beaux. Un arbre. Enfin,
un jardin, c'est subjectif, par exemple.
Voilà, c'est subjectif comme appréciation, mais un arbre, c'est quand même plus beau quand il peut se développer librement.
À partir du moment où il y a la liberté, il n'y a rien de subjectif. Hein. C'est. Enfin.
Voilà.
Ah, c'est beau ça.
Pour rebondir sur ce que tu dis, il faut voir l'espèce d'arbre qu'on veut planter par rapport à la surface du jardin, mais il faut voir aussi la quantité d'arbres. Il ne faut pas les planter trop près de la note, même si on a de la place.
Oui. Voilà.
Donc, mais ça n'empêche pas de vouloir et de et de devoir en planter quand on a l'occasion et l'envie. Il y a actuellement une opération qui a été mise en place par les espaces naturels régionaux et qui est relayée en région Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle Plantons le décor. Vous en avez certainement entendu parler. Vous pouvez vous procurer un petit catalogue fort intéressant dans vos mairies ou dans les offices de tourisme ou au Pays des Moulins de Flandre, qui vous propose des variétés d'arbres, d'arbustes, d'arbres fruitiers, et même cette année, c'est une nouveauté, des graines potagères de légumes locaux, et à prix intéressant. Donc vous pouvez encore vous procurer ce petit magazine, enfin ce petit catalogue, et vous pouvez encore passer commande jusqu'au 20 janvier.
Bon, en dehors du problème de la place, essentiellement la taille se fait sur les arbres fruitiers, quoi.
Oui, sur les arbres d'ornement aussi, on peut envisager une taille, mais ça peut être d'abord une taille de formation, une taille d'équilibrage, sans forcément être une taille très sévère. Après, sur les arbres fruitiers, bon, là, ce sera l'objet d'un chapitre spécial, voire d'une émission spéciale.
Je pense qu'on en parlera à la prochaine émission de février. Mais je vous donc, Radio Linkspiegel 91.8. Remercie Vincent, Bart, Thierry et Lydie à la technique. C'était l'émission Le Cri du Kevit.
Et Michel.
Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis donc le premier lundi de février, nous serons là. Sans doute on parlera encore des arbres alors.
Du sapin de Noël.
Bonne soirée, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.